Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du plus beau championnat d'Europe, du monde et de la galaxie bien sûr. Très content de vous retrouver et de retrouver notre belle Ligue 1 Uber Eats hein, pour encore quelques journées, hein, pour encore 8 journées. De folie, une course enflammée, que ce soit pour les places européennes ou encore pour le maintien en Ligue 1. Et aujourd'hui, bah, pour m'accompagner, pour reparler de ce beau championnat, j'ai trois chroniqueurs avec moi, trois commentateurs avec moi. On va commencer par le Globetrotter, celui qui a autant d'appartements dans le monde que Elon Musk et Jeff Bezos réunis. Alexis, comment tu vas?
Salut Desti, ça va, merci beaucoup de cette superbe introduction. Je suis content d'être là comme chaque semaine, je le dis très souvent, mais voilà, je suis quelqu'un de très content, surtout quand on parle de foot, le beau football. Salut les gars.
Nickel, bah, content de te retrouver. D'ailleurs, petite question, qu'est-ce que tu penses du nouveau logo de la Ligue 1?
Alors, je disais justement en off que on dirait un logo d'équipe de Formula 1. En e-sport, donc ouais, c'est pas mal pour faire la Formule 1. Après, pour le plus beau championnat de la galaxie, ça fait moins rêver, je trouve. Mais bon, peut-être que les autres auront une autre idée.
Ok. Bah, merci de partager avec nous ton avis. Steve, l'homme qui serait né selon la légende et qui aurait fondé la bonne mère. Steve, comment tu vas?
Ça va. Bon, moi, j'ai pas le droit à une intro comme Alex, en mode Globetrotter, 8 appartements dans le monde, pas le compte en banque à Jeff Bezos. Bon, c'est dommage, je vais me contenter de la bonne mère.
C'est pas mal déjà. Mais c'est sinon, pas mal.
Heureux d'être là et de parler football avec vous, les amis, toujours.
Bah, nickel, bah, content de t'avoir. Pareil, toi, qu'est-ce que t'as pensé de ce petit logo, ce petit changement de logo?
Vu ce qu'ils ont fait du logo, j'ai peur du trophée. On va se retrouver avec, pour rester sur la Formule 1, avec un singe comme au Grand Prix de France. Ça va faire bizarre d'avoir un rebranding de la Ligue 1 horrible. On va passer de Ligue 1 Uber Eats à Ligue 1 McDonald's, tout en perdant l'identité de la Ligue 1. C'est génial, j'adore. De quoi bien commencer la semaine en voyant ça.
Ok, bah, c'est positif tout ça pour commencer le podcast, hein, que sur des notes positives. On espère que notre ami de la capitale, notre ami Tibbs au gros pec, donnera un peu plus nous réjouira de son air enjoué. Thibaut, comment tu vas?
Bonsoir à toutes et à tous, Alexis, Steve et Dusty, ça va, vous allez bien? Moi, ça va, je vais bien. Et puis voilà, je suis content d'être là, tout simplement, et de parler du retour de notre Ligue 1 préférée, tout simplement.
Nickel. Et toi, petite question aussi, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau logo?
En vrai, c'est les goûts et les couleurs, hein. Vous savez, chacun aime et a le droit d'aimer ce qu'il veut. En soi, ça me fait penser aux anciens logos, tu sais, à l'ancienne, ils ont voulu faire un truc un peu rétro, à l'époque où c'était pas Ligue 1, mais Division 1, D1. Mm-hmm. Ça me fait penser aux anciens logos à l'ancienne. Donc, en soi, c'est une boucle. Après, c'est les goûts et les couleurs. Donc, c'est soit tu aimes, soit tu aimes pas. Après, le logo, en vrai, moi, je m'en fiche un petit peu, tout simplement. Après, si j'ai du beau football, moi, ça me va. Hein.
Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. J'aime son optimisme. Voilà, un peu d'optimisme quand même, ça fait plaisir. Merci à toi, Thibaut. On sent que tu supportes une équipe qui se porte bien. Ça fait la différence. Mais on y reviendra un peu plus tard. Donc, comme vous l'avez compris, mes amis auditeurs et auditrices, ce week-end, on a beaucoup de derby, on a beaucoup de matchs intéressants. C'est la dernière ligne droite. Et forcément, on peut pas parler de manière très longue de tous les matchs. On s'est concentré sur les deux matchs libres. Chaud du week-end, et forcément, bah, on va parler de Lille contre Lens dans une première partie, dans une deuxième partie, bah, forcément, du classico OM face au PSG. On va tout de suite commencer par le premier match, donc Lille contre Lens, pour vous remettre dans le contexte, actuellement Lille est quatrième du championnat avec 43 points. Lille qui a fait match nul face à Brest juste avant la trêve, hein, qui a raté énormément d'occasions face à ce Brest, qui aurait même pu s'imposer. De l'autre côté, on a une équipe lensoise qui est actuellement sixième avec 42 points, donc à un seul petit point de Lille, mais qui a perdu 1-3 à domicile face à Nice, hein, et c'est pas souvent que Lens perd à domicile, et on va revenir justement, et je vais vous poser des questions sur cette défense lensoise qui, moi, m'inquiète beaucoup, surtout après le match qu'on a vu. Qu'est-ce qui s'était passé au match aller entre Lens et Lille, parce que du coup, le match aller s'était joué à Lens, et ben, c'était un match nul. Les deux équipes s'étaient séparées, si je me trompe pas, sur un petit 1 partout. Donc, voilà. Pas une grande folie ce match aller, hein, mais bon, en ce moment-là, Lens non plus n'était... Enfin, si, Lens était sur une... En tout cas, est en train de remonter au championnat. Hein, Lille est toujours, voilà, un peu en dents de scie. Au niveau des effectifs des deux équipes, on n'a pas de gros absents, en tout cas d'absents importants. C'est vrai que côté... alors, si on en a même un peu quelques-uns, et du coup, on va en reparler, c'est pour ça que je voulais parler de cette défense lensoise. Du côté lillois, on a toujours Umtiti, Illich et Raphaël Fernandez qui sont absents. Et surtout, on a Angel Gomez qui est absent. Et Angel Gomez, c'est ce duo avec David qui est ce duo de 2024. On aura aussi Moraes qui est en reprise. Et côté Lensois, on y reviendra aussi un peu plus tard, mais on a Cabot qui est absent, on a Gradit, l'un des hommes forts de cette défense, on a Kouzanov qui est aussi suspendu, et on a Machado qui est en reprise, et Sichouba aussi qui devrait être absent. Messieurs, on va commencer par toi, Alexis, pour parler de cette équipe lilloise. Donc, on sait, et c'est l'une des forces de Lille, c'est que Lille à domicile, c'est une équipe qui est très solide. Aujourd'hui, Lille à domicile, c'est une seule défaite, c'est l'une des meilleures équipes à la maison. Il y a une vraie aussi solidité défensive parce qu'ils n'ont pris que 6 buts à la maison, ce qui est un véritable exploit. Toi, Alexis, pour voilà, commencer, cette équipe lilloise, qu'est-ce que tu en penses et comment tu penses qu'elle va aborder ce match, ce derby du Nord?
En fait, cette année, Lille, j'adore l'équipe. Ils ont une telle mentalité, un tel sérieux et une telle jeunesse, une fougasse aussi, qui les laisse voilà, gagner des matchs de manière impromptue, aussi perdre des points de temps en temps, un peu bêtement, avec les quelques, voilà, la dizaine de matchs nuls qu'ils ont pu faire cette année déjà. Mais comme tu disais, oui, à domicile déjà, ils sont presque imprenables. Ils ont eu qu'une seule défaite. Ils prennent que 6 buts. Donc c'est la meilleure défense à domicile. Sachant qu'en général, sur la saison, en général, ils sont deuxième meilleure défense. Avec, bon, derrière Brest et Nice, mais avec Paris, donc techniquement ça fait 4. Mais c'est une équipe, je dirais, qui ressemble beaucoup à Nice en début de saison, qui prenait vraiment très peu de buts, mais qui en attaque, c'est un peu plus compliqué, ils s'en mêlent un peu plus les pinceaux, ils ont peut-être trop d'idées, un peu mal organisées sur le terrain, qui fait que ça marche pas toujours, comme on a vu, comme Brest, c'est un match qu'ils doivent gagner. Ils avaient le match en main pendant, je crois, 5 minutes, ils menaient au score avant de se faire prendre, j'ai pas envie de dire bêtement, mais ouais, ils se font rejoindre un peu trop rapidement pour une équipe de ce standing qui espérait truster la quatrième, troisième place et la garder jusqu'au bout.
Ok. Bah, du coup, c'est très intéressant que tu parles de cette attaque lilloise. Ça me permet d'introduire Steve sur la question. Aujourd'hui, on le voit, on a un Jonathan David qui est en forme, qui est en feu. Hein, depuis le match aller contre le PSG, il enchaîne les buts. Là, il a 4 buts sur les 3 dernières journées. Il a 15 buts en championnat. C'est le deuxième meilleur buteur du championnat. Mais c'est un Jonathan David qui va se présenter sans Angel Gomez. Est-ce que c'est Est-ce qu'on peut s'inquiéter justement de cette absence d'Angel Gomez? Parce qu'on trouvait, enfin, en tout cas, moi, je trouve que ce duo fonctionne bien. Ou est-ce que ce Jonathan David, bah, justement, il va aussi pouvoir montrer son statut actuel de l'un des meilleurs buteurs du championnat de France actuel en 2024?
Contre une équipe qui manque un peu de stabilité et qui est relativement fébrile défensivement dernièrement, comme les Lens, je pense que l'absence de Gomez ne sera pas très préjudiciable à Jonathan David. Mais le problème, en fait, c'est que si David est dans un mauvais jour, qu'est-ce qui se passe? Parce que à côté de lui, il n'y a personne, tu as l'impression. Le meilleur buteur lillois après Jonathan David, c'est Yazici qui a 4 buts. Il y a 11 buts d'écart entre le premier meilleur buteur lillois et le deuxième meilleur buteur lillois. Tu as l'impression que si David ne marque pas, cette équipe lilloise ne marque pas. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu l'image que ça donne. Suffit que Danso soit dans un bon jour et verrouille David, et le match peut terminer à un score faible, on va dire. Donc c'est là la clé de ce match. Est-ce que David arrivera à jouer sans Gomez? Est-ce que Zergova va faire des illuminations sur son côté? Comment va se présenter cette attaque? C'est aussi une question importante. Et je pense que la clé de ce match sera le milieu et l'attaque lilloise. Que côté Lens, on en parlera après, mais c'est un peu fébrile dernièrement.
On va rester toujours sur cette attaque lilloise et c'est un très bon point que tu soulèves en parlant justement de cette absence d'alternative offensive du côté lillois parce que c'est justement quelque chose qui peut et faire pêcher parce qu'on a vu pendant une période Zegrova il y a encore quelques journées. Il n'était pas forcément en forme, c'était pas forcément le meilleur joueur sur le terrain. Il a même goûté le banc. Il a goûté le banc et il y a quelques journées, je me souviens plus des matchs exactement, mais c'était à la 22e et 23e journée où il goûte le banc. On voit que derrière, Yazici, ça apporte pas forcément satisfaction. Haraldsson, de plus en plus, il a été titulaire sur les 4 derniers matchs. Sans pour autant aussi apporter une grande satisfaction de son côté, même s'il a marqué. Toi, Thibaut, pareil, je te lance sur cette attaque lilloise. Est-ce que justement, c'est ça aussi le problème aujourd'hui de Fonseca, c'est que il n'a pas de valeur sûre en attaque. Il a que des joueurs de moment qui va espérer qu'à un moment un tel va être en forme, il va le faire jouer, un autre va être en forme, et au final, il n'y a pas de ligne conductrice dans cette attaque lilloise.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Steve juste avant là. C'est vrai qu'on dirait qu'ils ont une petite. En fait, quand Jonathan David va bien, quand il marque, tout va bien. Mais quand il va un peu moins bien, comme au début de saison, eh ben ils sont un peu moins bien, tu vois. Mais du coup, comment il va se présenter vendredi soir face au Lensois? Ça, c'est. On va voir comment il va gérer la chose devant. Va falloir qu'il demande peut-être un peu plus de ballons, qu'on lui donne un peu plus de ballons sans Angel Gomez, comme vous l'avez dit. Après, si Zegrova, pareil, est très, très enjangeant, mais très flamboyant, il peut aussi jouer le rôle d'Angel Gomez, lui passer des ballons et lui qui met au fond, ça il l'a déjà fait. Mais effectivement, on a l'impression qu'ils ont une petite Jonathan David dépendance et qu'ils n'ont pas forcément de mec derrière qui puisse l'épauler un petit peu quand il y a un blessé. Je crois que c'était Bayo, c'est ça? Il y a Bayo, non, ce qui joue. Lui,
D'accord, tu peux
ils l'ont
dire.
acheté. Dabo, c'est ça? Bayo,
Dago, Dago.
Bayo,
Dago.
lui, ouais, Dago. Ouais. Mais du coup, voilà, ils ont pas vraiment de mec qui peut-être qui pêche à ce niveau-là en attaque quand David est un peu moins bien. Mais voilà, je pense que là, il y a eu la trêve. Alors, je sais pas s'il s'est déplacé avec le Canada super loin, Jonathan David, et qu'il a pu se reposer un petit peu. Mais la trêve certainement a dû faire du bien aux joueurs, sûrement. Donc On verra comment va se présenter l'attaque lilloise, mais de toute façon, on va tout de suite le voir. Et effectivement, comme il a dit Steve aussi juste avant, si Danzo est dans un bon jour, ça va être un peu compliqué pour les Lillois de trouver le filet. Après, chez eux, comme tu dis, 13 matchs sans défaite. Donc, j'ai envie de dire, tout est possible, hein. Ça va être un match un peu décousu.
Bah justement, je vais vous poser la question à tous les trois avant de passer sur le RC Lens. Quel type de compo devrait opter Fonseca pour ce match de vendredi? Est-ce qu'on devrait plutôt partir sur un 4-3-3 comme on a pu le voir face à Rennes, à Brest, pardon, ou à Reims? On a vu que face à Rennes, en première mi-temps, ça ne les a pas forcément réussi. Ou bien peut-être plus un 4-2-3-1, comme on a pu le voir par exemple à Toulouse ou Lorient. Pareil, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais aujourd'hui, avec un Angel Gomez qui est absent, peut-être en mettant Cabella derrière l'attaquant, même si, bon, c'est peut-être pas son poste idoine, mais avoir un peu plus d'offensive devant pour, voilà, forcer cette équipe lensoise à défendre, ou alors opter pour ce 4-4-2, comme on l'a vu sur la deuxième mi-temps face à Rennes, avec justement ce petit jeune. Le petit jeune qui l'a fait rentrer Dago et qui justement a permis de débloquer la situation. Alors on fait rapidement un tour de table. Vous me justifiez ça, on va commencer par toi Alexis. Toi, quel compo penses-tu qu'il faudrait opter pour quel compo?
Moi, j'ai l'impression que ça fait quelques matchs, enfin, c'est un peu plus qu'une impression même, mais ça fait quelques matchs qu'il se lance ou qu'il veut forcer le 4-3-3. Donc, je pense qu'ils vont commencer comme ça aussi. Et après, oui, pendant le match, il changera peut-être un peu, oui, pour s'adapter à ce que Lens fera en face. Mais au début, je vois un 4-3-3, oui.
Ouais, clairement, sur les derniers matchs, il a opté pour le 4-3-3. Steve, toi, tu partirais pareil? Tu suis Steve sur le 4-3-3?
4-3-3, disons sur le papier et dans les faits, mais enfin, sur le papier, pardon, mais dans les faits, je pense plus que ça va s'orienter sur un 4-2-3-1 parce que on en parlera après, mais la défense lensoise est tellement décimée que ils vont vouloir essayer de d'être le plus offensif possible pour justement essayer de tuer le match rapidement en fait. Donc 4-3-3 sur le papier, mais on verra bien comment ça va se présenter dans les faits.
Ok, intéressant. Et toi, Thibaut, tu partirais, voilà, on va dire, t'es le juge de paix, ou peut-être une autre compo, hein.
De toute façon, non, de toute façon, quand je regarde les compos là qui faisait Fonseca, en gros, c'est soit comme dit Steve, c'est du 4-2-3-1 ou du 4-3-3. Donc, en gros, c'est soit il joue avec David tout seul en pointe et un mec qui tourne autour de lui, ou soit il joue avec deux ailiers, donc Zegrova et Haraldsson, là, qui essaie de malmener les latéraux adverses. Mais je pense que oui, ça va se diriger vers un 4-3-3, je pense, comme à Brest, hein, au final, où ils n'avaient pas été non plus ridicules. C'était assez serré d'ailleurs, hein, ce match-là. Et ça a fini avec un partout, enfin, logique, on va dire. Mais je pense qu'ils n'avaient pas été ridicules à Brest, et je pense qu'il va continuer dans ce schéma-là. Après, qui va remplacer Angel Gomez, ça, je sais pas. Est-ce qu'on va avoir une titularisation du jeune prodige Dago? À voir, je sais pas. Ou un autre mec, comme, je sais pas moi, Ounas, qui rentre jamais, tu vois, par exemple. Enfin, qui rentre souvent d'ailleurs. Donc pourquoi pas le mettre titulaire? D'ailleurs, il a fait un bon petit match, je crois, avec l'Algérie, je crois, il avait joué, c'était pas mauvais. Donc, pourquoi pas le mettre titulaire un peu, à voir. Franchement, il y a plusieurs possibilités. Donc, on verra bien.
Ok, très très bien, ouais. Parce qu'il me semble qu'Ounas avait été titulaire face à Toulouse et Lille, si je me souviens bien. D'accord, merci messieurs. Du coup, ça va nous permettre, voilà, une fois qu'on a parlé de cette attaque lilloise, hein, qui est l'un des quand même sujets à débat au vu des absences, de se concentrer sur cette équipe lensoise. Alors, Lens, comme on l'a dit, elle a perdu son dernier match 3 face à Rennes, mais elle a perdu ce match. Vrai, enfin, elle s'est tiré une balle dans le pied. Quand on voit déjà le premier but, c'est une erreur de Medina, hein, de relance qui cède face à la pression. Derrière, on a Samba qui fait aussi une erreur de relance. On a Kuzanov qui provoque un penalty. Vraiment, Lens a donné le bâton pour se faire battre. Lens, c'est quand même une équipe qui est actuellement sur 2 victoires, 1 nul et 2 défaites face à des concurrents directs. Alors, c'est quand même beaucoup de points perdus. Elle a perdu face à Nice, qui est une des pires équipes de Ligue 1. Hein. C'est même pas une des pires équipes des premières places. Hein. C'est de Ligue 1, elle est au niveau de Metz, de Clermont en 2024. Moi, je vous en parlais la dernière fois. Vous me disiez de pas trop m'inquiéter par rapport à cette défense lensoise. Est-ce qu'on peut commencer, enfin, à faire un bilan et de dire que cette année, la défense lensoise, elle est pas terrible. Alexis, je te lance sur le sujet. Est-ce que j'en fais trop par rapport à ça?
Non, je suis plus ou moins d'accord avec toi et pour plusieurs raisons, mais pas la défense en général. Je veux dire que en général, Danso et Gradit, ça va, ils tiennent encore plus ou moins leur rang, mais c'est surtout Medina depuis qu'il s'est cassé il y a quelques mois, il a eu, je pense, du mal à revenir en forme. Peut-être qu'il s'est attelé à d'autres tâches pendant sa convalescence. Mais voilà, je le sens très différent depuis qu'il est revenu. Et encore, autre chose, c'est surtout Samba, je dirais. Où je le sens très, très différent depuis janvier, février, depuis qu'il est régulièrement appelé en équipe de France. Je le sens beaucoup plus hautain. Et je dis pas ça négativement, mais je le sens sur le terrain très différent. Et quand il s'apprête à accueillir un tireur de penalty, on sent un peu d'attitude que j'aime pas toujours voir sur un terrain de foot. Après, c'est vrai, Samba, il est toujours dantesque, il est toujours c'est Samba. Mais voilà, depuis quelques temps, je les sens avec Medina et Samba très peu concentrés, avec la tête ailleurs peut-être. Et Danso Gradit qui parfois essaie de faire ce qu'ils peuvent pour sauver les meubles, mais parfois cède face à la pression aussi. Et donc ouais, je suis d'accord avec ce que tu disais pour résumer. La défense est pas aussi pertinente que l'année dernière. Pourtant, c'est la même.
Attends, on peut revenir sur un truc que tu as dit. Samba dantesque cette saison?
Non, en général, le personnage.
Ah,
cette saison, non, mais le personnage
est. Samba, cette saison, il est horrible, il est nul.
Bah, justement.
Il a ces moments où il va sortir 3 paras dans un match, et on l'a vu contre. Brest. Samba finit, je crois, homme du match, ou meilleur lensois, ou un truc du genre. Mais il laisse ses ballons, il passe entre les jambes, il a failli prendre un but comme ça. Il prend 2 ou 3 poteaux parce que son but est vide. Au final, on l'a vu même tout bête, hein, mais contre l'Allemagne avec l'équipe de France, il fait le petit chaton dans les pieds de Moussiala, mais en fait, c'est parce qu'il s'est jeté, il essaie de se rattraper derrière. En fait, Samba, cette saison, j'ai l'impression qu'on retrouve le Samba de Caen avant son passage en Championship, où en fait, il fait erreur sur erreur. T'as l'impression qu'il est insouciant et c'est un gardien de 20 ans. Cette saison, je ne retrouve pas le Samba de la dernière impériale et on se disait, ouais, c'est l'un des meilleurs gardiens de L1 et il mérite sa place en bleu. Cette saison, Samba, c'est très 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 poussif. Hein.
Bah, je suis d'accord, mais avec l'ego en plus. Du coup, il sait qu'il a pu faire une saison incroyable et du coup, dans sa tête, il a l'ego et il va tenter des choses incroyables parce que c'est un mec incroyable dans la façon dont il est. Mais du coup, il va faire encore plus d'erreurs. Donc, je suis d'accord.
Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites sur Samba, et Thibaut, je vais te lancer sur le sujet, puisque pour préparer, j'ai regardé quand même ses stats cette année par rapport à l'année dernière. Juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, Samba, il a concédé 27 buts. L'année dernière, il en concédait... Alors, 27 buts actuellement. L'année dernière, sur toute la saison, il en avait concédé 28. Actuellement, il est à 4... il fait 80 sauvetages, quand il en faisait 99 l'année dernière. Après, il y a quelque chose qui le sauve aussi un peu, c'est qu'il prend beaucoup de buts à l'intérieur de la surface, donc c'est 25 buts à l'intérieur de la surface et 24 buts l'année dernière, mais surtout, il sauve ses cages, enfin par match, c'est à peu près 9 arrêts quand il en faisait 4,95 l'année dernière. Est-ce qu'au final, on a un Samba qui est plus exposé et donc du coup, bah forcément, c'est peut-être pas un gardien, ce type de gardien, c'est peut-être un gardien qui, comme on peut le voir avec les grands gardiens, c'est des gardiens qui sont très peu exposés mais qui peuvent être très forts sur 4-5 arrêts. Donc c'est un problème défensif ou c'est vraiment un problème Samba? T'en penses quoi, Thibaut?
Ben, c'est ça le problème, c'est que en fait, c'est que je pense qu'il est beaucoup 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 exposé. Je pense que cette composition ne lui convient pas. À trois derrière et deux qui font les essuie-glaces, Aguilar et l'autre à gauche là. Du coup, c'est pas, je pense pas que ça soit et Frankowski. Du coup, je pense pas que ça soit optimal pour lui. C'est sûr que cette année il est un peu moins bon. Moi je le trouve vraiment, moi je le trouve moyen. Je l'ai vu contre l'équipe de France là, enfin avec l'équipe de France jouer, je l'ai trouvé assez moyen. Alors c'est peut-être visiblement en vous écoutant, il n'y a pas que moi qui pense ça. Moi j'ai un peu de mal avec lui. Après c'est bon, c'est pareil, c'est les goûts et les couleurs comme je le dis souvent. Mais effectivement, est-ce que physiquement les deux qui sont sur le côté il laisse pas plus d'espace, et il concède justement un peu plus d'occasions, donc du coup plus de frappes, donc il est peut-être plus assujetti à prendre des buts avec les enchaînements de matchs, la fatigue. Alors est-ce que ça joue? Je sais pas, je pourrais pas vous le dire. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est physique? Quand tu es un gardien de but, je pense que c'est plus dans la tête. Après, c'est sûr que depuis qu'il a été appelé en équipe de France, j'ai l'impression que c'est un autre Brice Samba qu'on peut voir. Mais bon, je suis sûr qu'il va finir je suis sûr qu'il va finir la saison en beauté, parce que c'est quand même quelqu'un qui a de la ressource. Il est physiquement grand, athlétique. C'est un bon gars, je pense, mine de rien. Il est dans une bonne équipe. Après, il faut peut-être un peu plus le protéger au niveau de la défense aussi, surtout. Donc c'est aussi à Franck Hayes de trouver la bonne alchimie, la bonne composition. Est-ce que finalement on peut se poser la question, est-ce qu'il l'a trouvé, vu qu'il change, enfin, c'est toujours des autres milieux, des autres attaquants, c'est jamais vraiment les mêmes milieux au final quand on regarde bien, ou les mêmes mecs sur les côtés. Il n'y a que la défense, je crois, qui bouge pas, donc les mecs ils sont souvent cramés, comme on l'a dit dans un autre podcast. Donc, à voir. De toute façon, là, il y a eu la trêve. Danso, il est sorti face à une belle victoire face au Turc 6-1, l'Autrichien. Enfin, donc, je pense qu'il sera physiquement apte. Et voilà, je pense qu'ils ont eu le temps de préparer cette rencontre. Donc, physiquement, les organismes se sont reposés. Donc,
Bah,
normalement, Lens devrait être au niveau.
je te coupe, Thibaut, désolé, et c'est la question, dernière question que je vais vous poser avant de passer au score. Justement, parce que tu parlais de Francaise, est-ce que Francaise, justement, il n'a pas perdu cet équilibre qu'il avait l'année dernière entre ses différentes strates, donc l'attaque, le milieu, la défense et le gardien? Et qu'est-ce qu'il doit, en gros, est-ce qu'il faudrait peut-être pas penser à un changement de disposition pour retrouver cet équilibre, ou alors il faut juste attendre et prendre le temps. On va commencer par toi, Alexis, puis rapidement, et après on va passer au score.
Alors, je pense qu'ils ont lancé pas une équipe qui a beaucoup de choses à changer, parce qu'ils n'ont pas de profondeur de banc incroyable et ils n'ont pas des profils qui peuvent jouer à plusieurs postes différents. Donc, je dirais, oui, il faut rester concentré, se regarder dans le miroir et savoir voilà, ce que tu attends de la fin de saison, et ouais, et se reprendre, et la sauce va reprendre et ça passera, je pense.
Toi, Steve?
Ouais, comme disait Alex, la profondeur de banc en soi, c'est pas non plus très très important, parce que là on voit que ce week-end, Kuzanov est suspendu, Gradit et Machado ne sont pas là. Donc là on est en train de se poser la question de est-ce qu'on va faire jouer Ruben Aguilar troisième central, ou est-ce que pour ce match-là qu'on passe à 4? Parce qu'on a juste deux blessés, un suspendu, et il faut changer la structure totale de l'équipe, parce qu'il n'y a pas le banc qui suit. Donc c'est un peu le problème de cette équipe en soi, c'est que l'effectif n'est pas non plus très profond. Il n'y a pas beaucoup de. Je ne sais pas dire qu'il n'y a pas de qualité, mais disons qu'il est un peu bâti pour jouer dans ce 3-5-2. Et que si ça ne marche pas, et ben on n'a pas trop d'autre choix que de forcer dans ce 3-5-2. Parce que l'effectif est bâti pour jouer dans cette disposition. Donc c'est un peu le problème. Donc, il n'y a pas vraiment de choix derrière pour Franquès que de continuer comme ça, tout en limitant la casse, quoi.
Et toi, Thibaut, pareil, tu penses que justement il faut attendre pour retrouver cet équilibre ou peut-être passer à une défense à 4?
Ouais, peut-être, ça serait peut-être une solution à passer avec une défense à 4, redescendre sûrement, il va sûrement peut-être redescendre à Aguilar. Moi, je trouve que ça serait la bonne solution. Après, voilà, on n'est pas dans la tête de Francaise, hein, mais bon. En fait, bon, mis à part la défaite contre Nice qui fait un peu tâche au final à domicile pour les Lensois, finalement, ils étaient dans une bonne dynamique au final, juste avant, avec deux victoires. Donc, après, à l'instant T, je les vois peut-être moins solides que les Lillois, mais ils vont sûrement me faire mentir encore une fois. Donc, franchement, ouais, après, je sais pas. Faudra voir, mais peut-être que le 4-4-2 serait sûrement une solution. Après, qui? Ça aussi, c'est la question qu'il faut se poser. Mais Francaise l'a sûrement déjà.
Ok, bah allez, on fait un petit tour de table. On va commencer par toi, Alexis. Ton prono pour le match.
Moi, je dis 3-1 pour Lille. Assez sobrement.
Ok,
Avec
très bien.
ouais, doublé de David et puis un but d'un défenseur. Et puis. Pour Lens, allez, Przemek Frankowski, le plus vite.
Steve?
Moi, vu la défense lensoise qui va être plus qu'expérimentale face à cette attaque lilloise qui, avec un Jonathan David qui marche sur l'eau un peu, je dirais pareil, une victoire lilloise dans ce derby du Nord.
Mais un petit score?
Ah, tu veux que je me mouille.
Ah, mouille-toi, mouille-toi.
Allez, je suis Alex sur le 3-1.
Ok, très bien. Et toi, Tibbs?
Moi, je pense que ça va être un match nul, mine de rien. Je pense qu'aucune des équipes va concéder de points. Mais il va y avoir des buts. Je pense que je vois bien un 2-2. Ou un
Oui.
1-1. Voilà, les deux équipes marquent. Et puis voilà.
Petit match nul. Ok, très bien.
Maintenant.
Très très bien. Bah, merci à vous messieurs pour ce premier match. On va passer au deuxième gros match de week-end. Alors là, ça va être intéressant de vous entendre parler. Bien sûr, c'est le Classico, hein, c'est l'un des plus gros matchs de la Ligue 1, l'Olympique de Marseille face au PSG. Pareil, avant de rentrer dans les équipes, on va se remettre un peu sur le contexte, hein. Donc forcément, le PSG est largement leader de ce championnat. Ils ont actuellement 12 points d'avance, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ils ont 12 points d'avance sur le deuxième qui est Brest. Ils ont gagné leur dernier match 6-2 face à Montpellier à l'extérieur, une grosse victoire. De l'autre côté, l'Olympique de Marseille est septième. Septième, elle est actuellement à 39 points, hein, donc elle est à 4 points des places européennes, donc de Nice qui est cinquième, et qui a perdu 2-0 face à Rennes, un match où Rennes n'a pas forcément été flamboyant, mais Marseille non plus. On se rappelle tous du match aller, j'ai envie de dire, hein, c'est pas une grosse surprise. Le PSG s'était imposé 4-0 face à Marseille. On se souvient que Mbappé était sorti à la 30e minute et que finalement, voilà, le PSG avait quand même largement dominé ce match. Là, on est dans un contexte différent. On a deux équipes qui sont européennes. Mais j'ai entendu, la légende veut, les rumeurs veulent que on aurait appelé MacGyver, Tom Cruise de Mission Impossible pour aider cette équipe marseillaise parce qu'elle se présente avec un effectif. J'ai de la peine pour eux. Nadir blessé, Rongier blessé, Murillo blessé, Meïté blessé en sélection, Klose blessé en sélection, Ismail Assar, blessé en sélection. Garcia, blessé. Pape Gay, blessé. Jean Nana, incertain. Balerdi, incertain. Et Gigot, très incertain. Quand on regarde l'effectif de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, c'est à en faire peur. Les joueurs qui seront présents, c'est, enfin, on se pose des questions, comment Gassé va pouvoir monter une équipe. Et Steve, je vais te lancer tout de suite, forcément le premier dans cette équipe. Quel 11 on peut s'attendre face au PSG? Qu'est-ce que peut faire aujourd'hui Gassé avec les joueurs qu'il a à sa disposition?
Comme je le disais en off, j'ai pas regardé le match de l'équipe de France contre le Chili. Mais je me connecte à la fin du match et là je vois Klose blessé. Et là ma mine s'est déconfite devant mon téléphone et parce que je me suis dit on va se présenter avec les U21 en fait. Parce que on va pas avoir le choix limite. Défensivement, on va avoir une équipe faite de briques et de brocs. La moitié des titulaires, on va dire indiscutables, sous Gassé ne sont pas là, presque. Garcia par contre pour te corriger. Et pourrait être présent, mais comme il est nul, on n'en veut pas. Donc du coup, là, on va se retrouver avec une équipe. Est-ce qu'on joue à 3, on joue à 4? Est-ce qu'on met Unai, défenseur droit? C'est à se poser des questions très étranges. Et j'ai peur, sincèrement, j'ai peur de la gueule de la compo le dimanche soir. Quand on va l'avoir une heure et demie avant le début du match, je pense que je vais avoir des sueurs froides. Et je vais cash out mon pari que je vais mettre dans le game parce que j'ai pas envie de perdre trop mon argent.
Ah là faut pas parier sur Marseille. Là je suis désolé hein, mais surtout que j'ai vu.
Mon cœur ne peut pas parier sur le PSG.
Non mais j'ai vu que dans le groupe il y aura aussi Sparania, donc Sparania qui a fait quelques apparitions sur le banc de l'OM cette année. Sparania, son dernier match, c'était contre Toulouse en 2016 en Coupe de la Ligue. Donc Marseille avait perdu 2. Hein. En 2016, pour te dire le truc, la Ligue 1 s'appelait encore la Ligue 1 Conforama. C'était Michel le coach. Le Gazélé qu'Ajaccio était encore à L1. Cette année, le Royaume-Uni votait pour le Brexit et Rihanna sortait son dernier album. Donc je te laisse imaginer, c'était quand la dernière fois que Sparania a joué un match pour l'OM. C'était il y a très longtemps quand même.
Et même après ça, hein, sa carrière, je veux dire, c'est pas non plus. Il est parti jouer au Brésil, il est revenu au Red Star. Après, il est parti jouer à. Ah, c'était où? Il est parti jouer en National 3, je crois, du côté de. C'est pas Aix, un truc du genre. Aubagne, un truc du genre. Il est parti jouer dans des fins fonds. Et en fait, l'histoire, elle est sympa. C'est un mec du club qui n'a pas trop. C'est un jeune de la formation qui n'a pas trop le niveau, mais qui est propulsé en Ligue 1. C'est sympa, l'histoire est sympa, mais le niveau est catastrophique et fait peur. Donc on verra bien ce qui va se passer.
Et okay. Il a 29 ans, j'ai l'impression que ça fait 35 ans que j'entends parler de lui.
Mais c'est ça, il est arrivé très très jeune, puisque 2016 c'était quand même il y a 8 ans. Et c'était son dernier match pour Marseille. Hein, donc c'est vrai qu'il a commencé très tôt avec l'OM. Alexis, forcément, c'est sûr qu'il y a toutes ces difficultés-là par rapport aux joueurs absents, mais c'est vrai que sur les deux derniers matchs, que ce soit contre Villarreal ou contre le Stade Rennais, on a vu que l'équipe marseillaise, elle avait le capot ouvert. Ça fumait, ils ont même failli se faire éliminer en Europe. On a vu une équipe qui subissait, qui était absente, des joueurs qui avaient du mal à être décisifs. Est-ce que, au final, peu importe le coach que tu mets dans cette équipe, ces joueurs-là, il y a une limite mentale dans cette équipe. Ils ne peuvent pas aller plus haut que ça, en fait. C'est là qu'ils ont atteint leur plafond de verre.
Bah, je ne dirais pas que c'est vraiment ça. C'est juste que, comme tu disais, on met n'importe quel coach. Bon, il y en a eu plein. Hein. Depuis 10 ans, il y en a eu plein des coachs à Marseille.
Même cette année,
même
il y en a eu plein.
Même plus qu'à Nantes, je crois.
Ouais.
c'est compliqué, mais... À chaque fois, c'est toujours la même histoire. À chaque fois, ça part sur le chapeau de roue. On a des grosses attentes. Ça va être magnifique. Il va tout changer. C'est le coach qui va tout changer et que ça va être magnifique. Et ils vont tout gagner la Champions League, l'Europa League, la Ligue 1. Ils vont battre le Paris Saint-Germain 4-0. Et le retour de Marseille de Tapie. Et oui, après, 2, 3, 4 semaines plus tard, il y a la dure réalité de la chose où il y a encore... 17 autres bonnes équipes en Ligue 1 qui ont les mêmes envies, les mêmes espoirs. Et justement, avec beaucoup moins de pression, je pense. C'est aussi la pression à Marseille qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui se perdent, des coachs qui perdent leurs moyens aussi parce qu'ils ont des idées, des projets de jeu, sauf qu'il y a les pressions des supporters, les pressions du club, de l'administration, de la région. Tout le monde a son mot à dire à Marseille, j'ai l'impression, et personne n'est jamais vraiment content.
Ok. Thibaut, j'imagine que toi, du fond de ton canapé, t'es plutôt amusé par cette situation et tu dois avoir un peu moins peur. Mais quand même, j'ai noté un petit truc du côté marseillais. Alors, c'est à prendre, hein. On n'est pas en train d'en faire toute une sauce. Marseille, c'est la seule équipe qui n'a pas perdu à domicile cette année. Oui, puisque même le PSG a perdu contre Nice à domicile, sa seule défaite d'ailleurs. Est-ce que ça peut être un petit, allez, signe d'espoir côté marseillais en se disant qu'avec l'appui de leur public et malgré le calendrier qui les attend, hein, puisqu'ils ont quand même eux aussi un calendrier chargé qui les attend côté marseillais, puisque après le PSG ils vont aller ils jouent pas en semaine, mais ils ont Lille, ils ont Benfica, après ils ont une pause, ils ont Benfica de nouveau, enfin ils jouent vraiment contre tous leurs concurrents sur ces dernières journées, hein, Nice, Lens et Reims pour finir. Est-ce que voilà ce côté vélodrome public, ça peut leur donner des ailes et voilà avoir cette petite chance pour aller chercher quelque chose?
Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Après,
J'adore.
Non, mais après.
Je vais la mettre en highlight après, sur Twitter. J'adore. Parfait.
mais après, bon, c'est ça reste un classico. Faut pas non plus. Faut pas non plus, ça se trouve, il y aura quelques joueurs qui vont côté marseillais, hein, qui vont être aptes, bizarrement, à avoir la rencontre pour jouer. Donc, il n'y a pas non plus, c'est sûr que c'est compliqué quand tu perds Klos, Mbemba, je crois, non, aussi, pareil,
Mbemba, donc voilà, déjà. Klos absent,
bon, après, c'est pas de base, comme tu dis, ils sont, je savais même pas, c'est une bonne stat que tu viens de nous dire là, en vrai je savais même pas qu'ils étaient invaincus au Vélodrome cette saison, effectivement, donc ça, en vrai ça peut être un
en Ligue 1, je précise, hein, au cas où il y a
en Ligue 1, ouais, en Ligue 1. Non, après ça peut être, je pense que ça peut être vite compliqué pour Marseille. Effectivement, tu parlais de plafond de verre tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, ils sont arrivés à leur summum, en vrai, j'ai envie de dire. Après, vu les joueurs, moi, j'arrive pas à, j'essaye d'être objectif, hein, avec cette équipe, mais j'arrive pas à trouver, non, mais vraiment, les joueurs, je comprends pas, en fait, les compositions, les joueurs qui ont été pris, qui ont été achetés, j'arrive pas à comprendre c'est pas ma vision du football, on va dire, mais bon, après ils sont septième, ils sont en embuscade derrière tous les favoris, on va dire, derrière. Est-ce que je sais pas, ils sont pas dans la forme de leur vie. Je pense que ils se sont qualifiés en Europa, mais c'était juste. Donc ça, en vrai, tant mieux, hein, qu'ils soient qualifiés, c'est bien pour la France. Et pour l'indice UEFA, mais là, je pense que ça va être dimanche soir, ça va être dur. Après, avec peut-être qu'avec l'appui du public, le fait que ça soit un classico, ils vont se transcender. Hein, des fois, c'est tout est possible. Hein, ça reste un match de foot, mais je les vois quand même vraiment vraiment en dessous quand même des Parisiens qui ont l'air bien dans leur basket finalement. Et en plus, Mbappé. A joué juste avant au Vélodrome, donc je pense qu'il connaît la pelouse maintenant. donc non, mais après, ce que je veux, que ça soit un match serré, justement, et qu'on kiffe jusqu'à la dernière minute. Bien sûr, forcément, et que ça soit un beau match, et pas que ça soit un match où il y a déjà 2-3-0 au bout de la première mi-temps, quoi. Donc, ouais. avoir, à voir ce que Gasset, parce qu'attention, au final, Gasset, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il connaît l'équipe, il connaît le PSG avec Lolo White. Quand il a coaché avec Lolo White, c'était des tactiques de... Moi, j'aimais bien ce qu'il proposait. J'adore cet entraîneur, j'adore ce monsieur. Je pense que c'est pas un peintre. Il a eu le temps de préparer le match en plus. Donc, je pense qu'on peut être surpris du niveau de l'Olympique de Marseille dimanche soir. Donc, c'est pas un match à prendre à la légère, mine de rien.
En fait, c'est ce que je disais une fois, je crois que c'était il y a 15 jours, je crois qu'on avait parlé de l'OM, et je disais qu'en fait, Gasset, il est en mission, parce qu'il s'en fout de créer un projet. On lui a donné ce groupe de joueurs, et on lui a dit « gagne des matchs ». Et donc lui, en fait, bah, c'est ce qu'il a fait. Il gagne des matchs, il s'adapte à l'adversaire, sans penser long terme, parce qu'il sait que dans 3 mois, il n'est plus là. Donc il s'en fout, il fait des compositions qui marchent le mieux à l'instant présent, parce qu'il doit gagner le match. Mais ça ne change pas que connaître le PSG ou pas, Vélodrome qui va être en fusion, et on va montrer aux supporters du PSG c'est quoi faire un vrai tifo. Parce que même quand le PSG joue à la maison, il y a des tifos de l'OM, c'est rigolo. On va montrer aux supporters
Ouais,
du PSG c'est quoi
je
faire un tifo.
suis pas si sûr si ça va, je suis pas sûr que ça va les aider beaucoup, mais bon.
Mais ça va pas les aider, ça va pas les aider, on va se faire ouvrir quand même. Tu peux mettre tout ce que tu veux, à côté de ça, tu as Mbappé qui est en feu. 7e saison consécutive à plus de 30 buts avec le PSG. Le mec, dernier match de Ligue 1, t'es pas content de replay. Y a quoi d'autre à dire en fait à part ça? Bon, attendez.
Bah,
Après.
juste, je suis désolé de te couper Thibaut,
Ouais.
mais l'une des problématiques aussi, c'est que Marseille, bah, ils ont loupé, ils ont perdu leur joker en perdant contre Rennes. Là, ils sont quand même, voilà, il reste 8 journées. Voilà, comme je l'ai rappelé, ils jouent quasiment que contre des concurrents directs, que ce soit Lille, Nice, Lens, Reims, que des équipes qui vont chercher l'Europe. T'as perdu contre Rennes 2-0, perdre encore contre le PSG alors que t'as déjà 4 points de retard. C'est risqué, hein. C'est risqué de prendre une valise contre le PSG. On va enchaîner sur le PSG, puisque je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur Marseille, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose d'autre. Mais on va enchaîner sur le PSG. Bon, on va enchaîner justement avec toi, Thibaut, sur le PSG. On sait que le PSG,
Okay.
bah, ils ont un calendrier aussi qui est chargé. Donc ils vont affronter Marseille, ils affrontent Rennes, derrière Clermont, forcément un peu plus faible. Après il y a le Barça en Ligue des Champions. Donc après il y a cette pause. Merci la Ligue hein, qui a fait un très beau geste pour les clubs qui étaient en Europe en leur permettant d'avoir un match décalé. Hein. C'est faut saluer quand ils aident les clubs en Europe. Donc après il y a Barça, Lyon, Lorient. Donc même si voilà c'est pas des matchs les plus compliqués, mais c'est vrai qu'il y a certains matchs qui ont de l'importance. On l'a vu que voilà, le PSG a de l'avance en championnat. La Coupe de France, c'est important pour Luis Enrique parce que on le voit faire certains matchs, notamment face à Reims où il avait mis une équipe un peu plus faible, face à Monaco il avait mis une équipe un peu plus faible avant la Sociedad, face à Lille aussi il avait mis une équipe un peu plus faible au match aller avant la Sociedad, ou encore même face à Strasbourg. Où il a mis une équipe plus faible avant d'affronter Brest en Coupe de France. Est-ce qu'on peut s'attendre, enfin, à quel type d'équipe on peut s'attendre face à cette OM? Une équipe A, donc les titulaires, même si on sait qu'aujourd'hui on a un Barcola et un Kimpembe qui sont blessés, et toujours voilà un Skriniar, Marquinhos qui sont en reprise. Une équipe A prime pour préparer justement ce match contre Rennes, carrément une équipe bis. Avec tous les joueurs en repos qui viennent de sélection, en se disant voilà, je bazarde peut-être un peu ce match, même si on gagne pas, on a le match nul, c'est très bien, mais le match le plus important, c'est Rennes.
Ben après, comme j'ai dit juste avant, ça reste un classico, donc voilà. Après, peut-il Luis Enrique peut-il bazarder ça? Moi, je vois pas comment, mais bon, là, je viens de voir que les internationaux reviennent à l'entraînement demain seulement, donc le vendredi 29 mars à l'entraînement. Donc bon, clairement, pour lui, c'est pas le match le plus important de la saison. Mais je pense quand même qu'il veut le gagner, bah, comme tous les joueurs hein, et comme tous les supporters. Mais après, il peut tourner. Je pense qu'il va un peu tourner au niveau de l'effectif. En plus, sans Barcola, je crois toujours blessé. Donc
Ouais, Barcola blessé pour quelques semaines.
Donc il va, je pense qu'on aura peut-être bah après ça va être du classique hein, je pense que Mbappé il va vouloir jouer, Dembélé pareil. En pointe, je sais pas qui ça sera, Kolo Muani ou Ramos. Voilà, après c'est Luis Enrique, tu sais jamais quelle composition il met à chaque fois, toujours ça tourne. Après c'est ça aussi la force, c'est qu'on a un beau banc pour une fois, donc on peut faire tourner. Il y a des mecs qui veulent jouer. Je pense que même si on met le banc ou le titulaire, ça sera quand même une belle équipe qui sera alignée. Et on aura du spectacle. Mais voilà, il ne faut pas non plus qu'ils prennent ce match-là à la légère. J'ai l'impression que. Après, je pense qu'il le fait. Hein, voilà, il a comment dire voir avec les supporters. C'était un match très, très particulier. Et je pense qu'il va vouloir quand même aller le gagner, mine de rien. Même si ses internationaux, un petit peu, quoi.
Ok. Alexis, du coup, toi, je vais pareil te lancer sur le sujet de cette composition d'équipe. Même si, bah, déjà, toi, est-ce que tu penses qu'il va mettre l'équipe type? Et même s'il met pas l'équipe type, est-ce que tu penses que, même sans ça, ce PSG est tellement fort que même avec une équipe bis, en soi, ils ont 90, allez, 80% de chances de gagner face à cette Olympique de Marseille?
Bah, oui, plus ou moins, techniquement, oui. Face à sept Olympiques de Marseille, où ils ont presque plus de défense, plus aucun joueur, techniquement, chaque poste de Paris, que ce soit le joueur A ou le joueur niveau B, sera meilleur sur le papier que Marseille, que ceux de Marseille. Après, je sais que je vais me faire plein d'ennemis en disant ça, mais c'est un peu vrai. Ce qui peut être sûr, c'est que Ekitike jouera pas, il est plus là, hein. Enfin, il n'existait pas, mais il est même plus là pour sûr. Mais ça aurait pu être une bonne chance pour lui de jouer un peu, parce que je pense que Luis Enrique va faire tourner un peu. Mais en fait, ce qui est marrant au PSG, c'est que faire tourner, ça veut dire faire jouer l'équipe A de l'année prochaine ou de dans 2 ans. C'est juste faire jouer les jeunes, faire jouer le futur, qui vont devenir l'équipe A du PSG sans vraiment doute. Et je pense que c'est ce qui est beau avec cette équipe, c'est qu'ils peuvent faire tourner, mais être toujours aussi sanguinolent et incroyable en fait sur le terrain, sur le spectacle qu'ils m'ont proposé.
Ok. Ouais, alors bon, je vais essayer de te donner un peu d'espoir quand même, mon petit Steve,
Non,
sur
y a pas.
ça. Mais on l'a vu quand même, cette défense parisienne. Bon, alors c'est vrai qu'on a un grand Donnarumma, mais c'est vrai que voilà, on a cette défense parisienne qui est pas forcément la plus sûre, qui peut commettre des erreurs. On l'a vu notamment avec Danilo, avant la trêve. Qui n'était pas forcément le plus serein et qui sortie un peu qui force Donnarumma à faire une sortie un peu bizarre. Est-ce que mine de rien sur une mi-temps sur 45 minutes si Marseille donne tout avec cette défense ou même on a un Hernandez qui est pas forcément en forme, on sait pas qui va être accompagné de Danilo, on n'est pas sûr que Nuno Mendes aussi soit là puisque il a été revenu avec une petite gêne. À droite, on n'a pas le meilleur des Hakimi qui va revenir aussi de sélection. Est-ce qu'il y a quand même ce petit espoir en se disant, bah voilà, cette défense parisienne, au final, elle n'est pas si pas tant en maîtrise que ça et qu'il y a peut-être une chance à jouer de ce côté-là?
Ça dépend. Est-ce que c'est le PSG de la première mi-temps contre Montpellier ou est-ce que c'est le PSG de la deuxième mi-temps contre Montpellier?
C'est ça le
Si c'est le
problème.
PSG de la première mi-temps contre Montpellier, il y a moyen que ça fasse match nul. Si c'est le PSG de la deuxième mi-temps contre Montpellier, on prend 4-0, tu vois, facile. Parce que en première mi-temps contre Montpellier, comme tu l'as dit, Daniel Pereira fait quelques relances hasardeuses. Tu prends un penalty, non pas de la faute de Donnarumma. Mais de la faute de Pereira. Donc en fait, tout dépendra de est-ce que le PSG est dans un bon jour ou pas. Mais c'est difficile de dire autre chose que on va se faire ouvrir en fait. Quand tu vois Mbappé, le dernier match en Ligue 1, il n'a pas été exceptionnel sur le rassemblement international. C'est peut-être que je vais dire, ça pourrait lui mettre un doute, parce qu'on sait très bien qu'il aime bien l'OM. Malheureusement, il aime bien l'OM. Et je pense que dans le contrat de Luis Enrique, c'est écrit que t'as pas le droit de bazarder un classico. C'est le genre de match que on l'a vu même au match aller, hein, tu prends 4-0. Match très très abouti du PSG face à un OM certes un peu inerte, mais tu marques, t'en mets 4, tu gagnes à la maison, job done. Et voilà, il est obligé, tu peux pas, quand tu es entraîneur du PSG, négliger un classico. Tu vas te faire ouvrir par les supporters, tu vas te faire ouvrir par des purs parisiens comme Dembélé, Zaïre Emery ou Mbappé, qui vont te dire, mais qu'est-ce que tu nous fais comme connerie en fait? C'est un match qu'on doit gagner, c'est un match du LDC. Mais comme tu l'as dit, le calendrier parisien reste chargé. En 15 jours, tu joues 5 fois, dont un aller-retour de un quart de finale de Champions League. Donc, équipe A, mais ça va rapidement faire tourner dépendamment du score.
Ok. Bon bah si vous avez plus rien à ajouter, on va passer au prono. On va commencer par toi, Thibaut. Ton prono pour ce match.
Moi, je vois 1-3 Paris. Voilà. Les deux équipes marquent. Je pense que, comme tu as dit, les Parisiens sont quand même légèrement assez fébriles derrière quand ils font un peu mettre un peu quand il y a un peu d'intensité. Je pense qu'il y aura les Marseillais vont quand même mettre un peu d'intensité. Je pense qu'ils peuvent mettre un ou deux buts. Allez, vraiment, si voilà. Mais je pense que Paris peut prendre un but, donc 1-3, donc victoire de Paris, hein, 1-3 Paris. Voilà. Les deux équipes marquent.
Ok, merci à toi. Alexis, un petit prono.
Alors, moi, je vois Marseille marquer en premier, en fait, parce que Paris, ils vont voir la défense de Marseille, ils vont rigoler, et ils vont se dire, ok, c'est bon, on peut jouer tranquille. Mais ils vont se prendre le premier but, et après, Paris va dérouler. Et Marseille marquait un dernier but à la fin, donc je vois un petit 5-2 pour Paris.
Ah oui, quand même.
Ah oui,
Ah, t'es
premier
dur,
set.
toi, quand même. Ouais, je te jure. Un score de tennis, quasiment, quoi. Ok.
Voilà, voilà. Ouais, 6-2 aussi, 6-2 si tu veux.
Ok. 6-2,
Ce serait
allez.
vraiment un score de tennis du coup.
Parfait, ok. Bon, on ferme le bal avec toi, Steve. Un petit prono.
Bah, je vais suivre la logique d'Alex qui comment dire, que l'on peut voir en fait sur les classicos récents, c'est que tu as un OM qui met beaucoup d'intensité, surtout au Vélodrome en début de match. Donc je vois bien l'OM sur soit sur un pressing à la gorge ou quelque chose comme ça marqué en premier. Surtout que comme tu l'as dit, Lucas Hernandez, on ne sait pas si c'est lui qui va titulariser, mais si c'est lui, il n'est pas trop dans ses meilleurs matchs et dans ses meilleurs mois. Donc je vois l'OM ouvrir le score, mais derrière, je vois vite un PSG revanchard. Donc je vois un 4-1 PSG,
Ok.
avec un but de Kolo Muani en mode il a retrouvé des couleurs avec l'équipe de France.
Ah, c'est vrai qu'il est sur une bonne dynamique, il fait un bon match face à l'Allemagne, il fait une passe décisive, un but. Bon, après, ça reste le Chili, hein. Mais c'est vrai que voilà, ça peut quand même le mettre en confiance. Et c'est vrai que devant, il y a une place à prendre vu que Barcola est blessé. Ok,
Et
bon
Gonzalo
bah.
Ramos, c'est pas non plus
Ouais,
a pas
donc
trop trop
non.
montré beaucoup de choses côté PSG. Donc Colomoini sera titularisé, je pense, et je le vois bien marquer un but de Kylian, un but de Dembélé. Et allez, un but de Zaïre Emery en mode que des purs parisiens qui marquent et puis qui veulent terminer à la maison.
Ok. Bon bah nickel. En espérant qu'il n'y ait pas d'incident et pas de lancer de cailloux sur le bus parisien
Ah,
et
ça, il y en
qu'on ait le
aura.
droit à un bon match.
Ça, par contre,
Bon,
ça fait
voilà.
partie du folklore. Ça va y en avoir. À chaque corner, tu verras les boucliers qui vont sortir. T'es obligé, tu vois. C'est Marseille bébé, tu vois. T'es obligé.
La petite pression. Bon bah merci messieurs, voilà pour avoir commenté ces deux matchs. On va se faire nos petits tours des stades habituels. Hein.
Et toi, Dusty, tu vois quoi, toi? Tu nous as
Pour
pas
ce
dit ce que
match-là?
tu voyais?
Non bah
Ouais.
non bah je donne plus mes pronos comme ça nous fait aussi un peu gagner de temps. Mais
Ouais,
si tu veux, je
oui.
peux donner mon pronos pour ce match-là. Moi
1-0
personnellement,
Marseille. 1-0 Marseille, Dusty.
je pense que Marseille ne va pas gagner, va pas mettre de but tout court même. Moi, je vois un 4-0 pour le PSG et je pense que ça va se régler en première mi-temps avec même 2 voire 3 buts en première mi-temps et un petit but en deuxième. Mais je pense que je vois pas Marseille marquer.
Ok.
Donc voilà. Tour des stades. Alors, tour des stades, on va commencer du coup par Metz-Monaco. Donc pareil, je vous remets dans le contexte. Metz-Monaco l'avait emporté au match aller 2-1. Donc Monaco qui est actuellement troisième du championnat avec 46 points, tandis que Metz est 17e avec 23 points. Donc à 3 points du premier non relégable, Lorient qui a 26 points. La journée précédente, Metz s'était incliné face à Reims 2-1 quand Monaco avait fait 2-2 face à Lorient. En termes d'absence côté messin, on a l'absence de alors incertain de Lamkelze. On aura Jean-Jacques et Sabali qui sont suspendus. Du côté monégasque, à part les absents habituels, on a Zakaria qui est toujours suspendu, Mbolo qui est en reprise et le retour de Salisu. Steve, on va commencer par toi. Metz-Monaco, ton prono?
J'hésite entre la victoire monégasque qui paraît certaine et encore une fois un gros choc de Monaco qui, t'as l'impression, ne veut pas devenir dauphin du PSG. Ça n'a rien à comprendre. Bon, la logique voudrait une victoire monégasque. Donc je dirais, je suis la logique et 2-0 Monaco.
Ok. Alexis?
Ouais, je suis plus ou moins d'accord aussi. 2-0 Monaco, mais je les vois bien galérer en fait à marquer ce premier but. Et je les vois bien presque prendre une égalisation. Genre, je vois bien un but refusé pour un hors-jeu très très limite et après Monaco qui marque le deuxième derrière en fin de match. Mais ouais,
Ok.
match compliqué, mais 2-0 pour Monaco.
Ok. Et toi, Thibaut?
Alors, effectivement, Metz joue bien depuis 3-4 matchs, mais je vois là Monaco, il leur faut des points. Comme tu dis, comme a dit Steve, ils choquent quand ils doivent gagner cette équipe-là. Donc bon, mais quand même là, je pense que la marche est plutôt facile logiquement pour les Monégasques qui sont intrinsèquement plus costauds que les Messins. Donc voilà, je pense une victoire monégasque à Saint-Symphorien, 2-0, voilà.
Ok. Ouais. Après, c'est vrai que bah, les deux équipes sont dans des situations différentes, mais les deux équipes doivent avoir des points, l'un pour sauver sa tête et l'autre pour viser le rang. Très bien. On va passer du coup au match suivant. Lyon contre Reims. Alors Lyon contre Reims. Match aller. Reims s'est imposé 2-0 à domicile face à Lyon. Donc actuellement, Reims est 9e du championnat, donc à 38 qui a 38 points, donc pareil, qui sont à 40 qui est à 5 points de Nice, hein, donc Reims, comme on l'a dit juste à l'instant, qui s'était imposé 2-1 face à Metz. De l'autre côté, on a Lyon qui voilà nous fait une remontée extraordinaire et qui est à 34 points et qui est actuellement 10e du championnat. Lyon s'est imposé également lors de la dernière journée. Face à Toulouse, 3-2, hein, sur le fil. Du coup, ce petit match-là, on va commencer par toi. Ah oui, en termes d'absents, pardon, j'ai oublié de préciser, que ce soit côté lyonnais, bah, on a Mata qui est suspendu. Après, on a quand même le retour de Benarama et de Mangala dans le groupe et dans l'équipe. On aurait Adrielson qui serait aussi absent pour raison personnelle, tandis que côté Raymond, on a quand même beaucoup d'absents, que ce soit Thomas, Bojan, Stambouli ou encore Darami qui sont blessés, et De Smet qui est suspendu, mais on a le retour de Maxime Buzy. Steve, je t'écoute, pronostic pour ce match de Lyon versus Reims.
Au vu des absents côté Rémois, j'ai penché pour une légère victoire lyonnaise. Mais c'est juste triste à se dire que Lyon-Reims est maintenant un match de ventre mou du championnat. C'est un peu étrange de dire ça, mais bon. Du coup, victoire lyonnaise demain.
Ok, très bien. Alexis?
Moi, je trouve ça drôle. On parle plus que de Reims que pour parler des absents, en fait, depuis la CAN, la Coupe d'Asie, etc. J'ai l'impression qu'ils n'existent plus. Ils font presque plus rien, mais ils ont juste plein d'absents. Donc, je vois, oui, la même chose là. Ils vont avoir un match très compliqué contre Lyon. Et je vois Lyon quand même buter avec leur malchance connue et avec un Lacazette peut-être qui sera moins en forme en ce moment. Donc, je vois un 0-0 en fait. Vieux match de merde.
C'est quand même le match du samedi soir. Hein. C'est censé être quand même une belle affiche. Hein.
Samedi soir, on est en boîte.
C'est pas faux. C'est pas faux. C'est peut-être pour ça qu'ils nous restent à la
Avec
peut-être qu'il
Verratti. Avec Verratti.
peut-être qu'il faut être bourré pour pouvoir regarder ce match justement. C'est pour ça qu'ils l'ont mis samedi soir. Thibaut.
Ouais, donc choc du milieu de tableau. Mais comme je t'ai dit là, je vous ai entendu là, il y a l'air d'avoir beaucoup d'absents du côté rémois. Surtout Thomas là, qui joue super bien en plus en ce moment avec Reims qui est absent logiquement. Donc je vois bien Lyon gagner à l'arrache. Voilà, pas avec un gros écart, mais un but d'écart, voilà, 1-0 ou 2-1. Voilà, donc je vois bien quand même Lyon s'imposer cette fois-ci. Ou si ils choquent au pire du pire, ils font match nul. Mais je les vois quand même finalement s'imposer, les Lyonnais. Voilà. À
Ok.
Germain.
Ok,
Fin de
très bien. Très très bien. Bah merci, merci à toi. On va passer
Au parc
maintenant au
olympique, hein. Pas
match.
Gerland. Pourquoi je dis Gerland, moi?
Ouais, je me disais, t'as dit Gerland? Il a dit Gerland?
Bah, j'avais pas
J'ai dit
fait
Gerland.
attention.
Ah, j'ai vraiment dit Gerland. Tu pourras couper ça au montage, merci.
Ah, je sais pas si t'as été gentil.
Tu vois, en fait, c'est un deuxième highlight pour compenser la blague de tout à l'heure. Tu vois, c'est un deuxième highlight, ça compense.
Allez, next.
Match suivant. Lorient face à Brest. Donc, le match du 13h. Habituellement, les matchs du 13h sont plutôt bons. Donc là, on a Lorient-Brest. On a quand même deux équipes qui
Ouais.
sont assez joueuses. Lorient est quand même assez une équipe qui joue bien sur cette fin de saison avec un super bon bail. C'est surtout un derby de Bretagne. C'est un match assez important. Au match aller, Brest s'est imposé 4-0 face à Lorient à domicile. Avant la trêve, Brest a fait match nul contre Lille, hein, comme on l'a évoqué en début de podcast. Lorient, lui, elle a fait match nul aussi 2-2 face à Monaco. Donc on a un Brest qui est actuellement deuxième du championnat avec 47 points, donc 12 points de retard sur le PSG, mais un point d'avance sur Monaco troisième. Et 4 points d'avance sur Lille 4e, donc très bien placé. Et de l'autre côté, on a Lorient qui est 15e, donc premier non relégable avec 26 points, qui a 1 point d'avance sur Nantes, 25 points, et Metz, et 3 points d'avance sur Metz qui a 23 points. En termes d'absence, côté Strasbourgeois, Brestois, pardon, on a quand même Pierre Lesmélou, l'une des pièces maîtresses de cette équipe qui est absent. Et du côté Lorientais, donc à part les absents habituels, on a Tosin qui est suspendu, Boargard qui est incertain, mais par contre, on a le retour de Isaac Touré, de Benjamin Mendy et de Gédéon Kalou. Steve, pronostic.
2-0 pour Brest. Parce que c'est une équipe qui a besoin de points, c'est une équipe qui ne veut pas perdre, je pense, le fil de sa bonne saison et de se retrouver un peu sans rien à la fin. Je pense qu'ils vont vouloir capitaliser face à une équipe lorientaise qui n'est plus ce qu'elle était sur les quelques dernières saisons. Donc voilà, je pense 2-0. Et comme tu l'as dit, les matchs du dimanche 13h sont souvent intéressants. Parce que du coup, tu finis le poulet frites avec la famille et après tu fais la sieste devant le match de 15h, qui va encore être une purge cette semaine, je pense.
Ouais, je sais pas, on va en parler de ce multiplex, mais ouais, ça va être encore compliqué. Alexis, ton prono.
Moi, je suis pas d'accord avec Steve. Je pense que Lorient a une beaucoup plus grosse motivation que Brest pour finir la saison. Ils veulent certainement pas redescendre en Ligue 2. Et je pense que c'est un très gros coup de boost. On l'a vu, hein, ces derniers matchs, Lorient, ils montrent beaucoup plus de choses et ils font des scores beaucoup plus intéressants. Donc je les vois quand même gagner 1-0. Ça fera un peu tâche pour la saison de Brest, en effet, mais Lorient, faut pas leur enlever ce qu'ils font de bon cette année.
Ok, très bien, très très bien. Et toi, Thibaut?
Ouais, c'est un match un peu compliqué. J'essaie de le regarder dans tous les sens et je vois plutôt un match nul. Voilà, Brest un peu qui bon, ils vont quand même un peu lâcher des points, j'ose espérer. Donc je vois bien un match nul. Tu sais, à chaque fois je dis ça, Brest va lâcher des points, ils nous en lâchent jamais au final. Mais ouais, match nul. Allez, comme Lorient joue, comme je les trouve un peu mieux en ce moment. Et effectivement, il leur faut des points aussi. Donc, je les vois bien, les accrocher, Lorient accrocheur et match nul, un partout.
Ok, très bien, très très bien. On va passer maintenant au match du multiplex, les matchs de 15h, hein, donc c'est pas les matchs les plus intéressants, hein, comme tu l'as dit, Steve. Et le premier dont on va parler, enfin dont on va pronostiquer, bah c'est Nantes contre, enfin Nice contre Nantes. Hein. Nantes, c'est quand même la première équipe qui a fait tomber cette équipe niçoise, il me semble, qui a gagné 1-0. Donc Nantes qui change aussi d'entraîneur. Hein, bienvenue à toi, enfin Monsieur Comboiré. Hein, et je vous invite à aller écouter le chant des supporters qu'on a fait sur le FC Nantes, dont on parle un peu de ces changements d'entraîneur. Donc Nantes qui s'est imposé 1-0 au match aller. Donc Nice qui est en difficulté en 2024, qui est actuellement cinquième avec 43 points, donc qui a un point d'avance sur Lens qui est sixième et qui a le même nombre de points que Lille qui est actuellement quatrième. Nice qui s'était imposé, donc comme on l'a dit, contre Lens, face à Lens 3-1, avec beaucoup de buts qui lui ont été offerts. De l'autre côté, Nantes qui vient de changer d'entraîneur. Est actuellement 16e du championnat, donc premier relégable avec 25 points, donc il n'a qu'un point de retard sur Lorient. Nantes qui s'était incliné avant la trêve 1-3 à domicile face à Strasbourg. En termes d'absence du côté nantais ou même strasbourgeois, on n'a rien de qui sort du lot.
Il y a
Pas de.
Moses Simon, Moses
Ah oui,
Simon qui s'est
Moses
blessé
Simons.
hier.
Mais oui, fin de
Eh
saison
oui.
pour Moses Simons. Fin de saison pour
Eh
Moses
oui.
Simons. Ganago qui est aussi absent, qui s'est fait les croisés. Mupiu qui a toujours le genou. Alors il y a le retour de Costa. Et du côté niçois, bah, Diop qui est toujours blessé. On a Rosario, Thuram et Boulendi qui sont aussi suspendus. Et Beka qui est toujours absent. Mais c'est vrai que l'absence de Moses Simons et de Ganago sont à noter. Bah tiens, Alexis, on va commencer par toi. Tes pronostics pour ce match-là?
Bah alors c'est Nice, une équipe depuis le début de la saison, on n'arrête pas de louer sa défense et qui sont stables, très sereins, etc. contre l'équipe qui a le plus perdu en Ligue 1 cette année. Donc je pense que je vois quand même Nice. J'ai failli les appeler par leur prénom, par leur surnom, pardon. Mais ouais, je les vois gagner quand même une victoire assez simple et rapide et efficace, mais 1-0. Surtout, oui, ça fait mal pour Nantes qui perd contre un concurrent direct il y a 2 semaines, qui change d'entraîneur, donc nouveau coup de boost pour finir la saison, mais qui perd Simon, leur pièce maîtresse. Donc ça va être compliqué, je pense. Et Nice va en profiter.
Ok, donc toi tu vois quoi comme score?
Donc 1-0 pour Nice.
Ok. Steve, pardon.
Malheureusement, ouais, je suis Alex et je pense qu'on reverra Moses Simon en Ligue 2 l'année prochaine parce que je vois une petite
Non, il
victoire
partira.
niçoise.
Ah ouais, t'es bien optimiste. Sur la présence de Simons encore à Nantes l'année prochaine.
Du coup, 1-0 Nice.
Ok, et toi Thibaut?
Ouais, je vois difficilement Nantes gagner là-bas à Nice. Donc pareil, je vois 2-0 Nice. Et en fait, moi je vois plus Nantes plus tard dans les matchs qui vont arriver là, prendre des points, mais plutôt à domicile, c'est là où il faut qu'ils prennent des points. Et là, je vois Nice un peu, du coup Nice pareil, il leur faut des points et je les vois pas perdre ce match. Donc Nice, victoire de Nice.
Un petit score.
2-0.
Ok. On va passer au match suivant, Clermont face à Toulouse. Donc Clermont face à Toulouse, ces deux équipes qui s'étaient séparées sur un match nul 2-2 à Toulouse. Deux équipes qui sont pas forcément, enfin surtout Clermont qui est dernier du championnat, donc 18e avec 20 points, qui a 3 points de Metz et 6 points du premier non relégable Lorient. De l'autre côté, Toulouse qui est un peu dans le ventre mou, hein, qui vise un peu le maintien, qui est actuellement 11e avec 29 points, donc qui a autant de points que Strasbourg 29, mais surtout qui a 2 points d'avance sur Le Havre et Montpellier qui sont 13e et 14e. Toulouse qui s'était incliné à domicile face à Lyon 2-3, quand de son côté Clermont avait battu Le Havre 2-1. En termes d'absence, côté toulousain, pardon, il faudra compter l'absence quand même de Donou et Spiering qui sont suspendus, hein. Et du côté de Clermont Foot, on a Borges, Gastien et Rachani qui sont aussi suspendus. Pronostic, Steve?
Je pronostique ma sieste sur ce match-là. Donc, ça sera un peu compliqué. Moi, je vois une victoire toulousaine parce que Clermont, c'est vraiment catastrophique. Allez. 2-0 Toulouse, mais c'est pas le match que je vais regarder.
Ok, Alexis.
Moi, je vois un match nul parce que Toulouse joue très très bien contre les grosses équipes et après contre les plus petites équipes ou alors moins bien classées, ils ont un peu plus du mal. Donc, je vois un match nul, un vieux bon 0-0 comme on les aime en Ligue 1, McDonald's.
Ok, et toi, Thibaut?
Moi aussi, pareil, je vois un match nul sur ce match-là. Même si Clermont m'ont quand même impressionné contre Le Havre, j'ai cru qu'ils auraient un peu plus de mal sur le dernier match, mais au final, ils ont réussi à gagner. Chapeau à eux, ils ont pris 3 points, mais bon, après, là, sur ce match-là, Clermont-Toulouse, c'est pas le match que je vais regarder, on va pas se mentir, mais ouais, match nul, allez, comme ça, tout le monde est content, et puis voilà.
Ok. Allez, on boucle les deux derniers matchs rapidement, puisque voilà, c'est quand même un petit moment. On a passé beaucoup de moments sur ces deux premiers matchs. Montpellier-Le Havre, Montpellier-Le Havre, deux équipes qui, elles aussi, s'étaient séparées sur un match nul, donc 2-2 au match aller. Pareil, deux équipes qui sont dans le ventre mou. Alors, Montpellier, elle, s'était inclinée 6-2 face au PSG, hein, donc un match. Sans discussion, de son côté, Le Havre a perdu face au Clermont Foot, hein, qui est quand même un concurrent direct dans le maintien en Ligue 1. Donc, ces deux équipes qui sont deux concurrents directs pour se maintenir. Montpellier qui est actuellement 14e du championnat avec 27 points, donc à 2 points du premier relégable. Quand de son côté, Le Havre est aussi à 27 points, à 2 points du premier relégable à la 13e position. En termes d'absence, du côté de Montpellier, on comptera l'absence de Casri qui est suspendu. Et du côté de Le Havre, Targaline qui est aussi suspendu, Lokbo qui est blessé et Sangante qui est incertain. Allez, Steve, un petit pronom.
0-0. Parce que je pense que les deux équipes sont assez sont dans une phase qui n'est pas non plus la meilleure. Le Havre, comme tu l'as dit, sort d'un match à Clermont qui a ravivé une flamme à Clermont, mais qui a dû un peu retourner la tête de l'équipe Elsner. Donc je pense un bon 0-0, bien, bien famille de Ligue 1.
Ok. Alexis?
Oui, je suis d'accord aussi, mais peut-être pas sur le 0-0, mais le 1-1, parce que les deux équipes veulent se sauver le plus rapidement possible. Enfin, mettre le plus de distance possible avec Nantes et Metz et Clermont. Donc ouais, ils vont essayer de marquer, ils vont essayer de jouer. Donc ça va partir en 1, je pense.
Ok, très bien. Et toi, Thibaut?
Pareil, match nul. Je vois deux équipes se neutraliser un petit peu. Surtout que je vois les derniers résultats du Havre à domicile, c'est pas non plus catastrophique. Même si sur les 3 derniers matchs, bon, ils sont sur une victoire et 2 défaites à domicile, hein. Mais c'est pas ridicule à domicile, donc je les vois bien embêter un peu Montpellier, mais quand même Montpellier c'est quand même assez, c'est intrinsèquement un peu plus solide que Le Havre, donc voilà, je vois bien un match nul effectivement.
Ok, très bien. Et enfin, on finit par le match de 17h, hein, ce match d'introduction avant le Classico. Donc Strasbourg face à Rennes. Strasbourg face à Rennes, c'était aussi un match nul au match aller, hein, donc les deux équipes s'étaient séparées sur un petit 1-1. Deux équipes qui sont dans deux logiques différentes. Donc Strasbourg qui est actuellement 12e du championnat à 29 points, donc autant de points que Toulouse. Donc voilà, il y a beaucoup de concurrents directs qui vont s'affronter pour le maintien ce week-end. Et ils ont 2 points d'avance sur Le Havre et Montpellier, qui sont à la 13e et à 14e place, donc avec 27 points. De l'autre côté, Rennes, qui fait une très belle remontée au championnat, est actuellement 8e. 8e du championnat, donc avec 39 points, qui est bon, ce qu'ils arriveront à gérer les places européennes, on ne sait pas, parce qu'ils sont quand même à 4 points de Nice, mais ils ont autant de points que l'Olympique de Marseille, qui est 7e. Juste pour rappeler quand même les scores précédents, Rennes s'est imposé donc 2-0 face à Marseille, qui est un concurrent direct, quand Strasbourg, de son côté, a battu le FC Nantes, qui est aussi un concurrent direct au maintien, 3-1. En termes d'absence auprès des deux équipes, alors côté Rennais, on a Blas et Truffert qui seront suspendus et Naguida qui est blessé au ménisque. C'est vrai que côté strasbourgeois, il y a quand même beaucoup plus d'incertitudes et d'absences. Donc on a toujours Fila, Motiba et Gabriel, pardon, qui sont absents. Perrin, Doucouré, Silla et Dion qui sont incertains. Perchiche, pardon, qui est absent. Et enfin, on notera le retour de Mwanga et Sissoko. On va commencer par toi, Alexis, hein, parce que c'est quand même ton équipe. Strasbourg, un petit prono?
Alors déjà, je pense que ça va être un très beau match à voir, malgré les quelques absents. Je dis pas ça pour Strasbourg, mais en général, les Strasbourg-Rennes, c'est ça joue. Les deux ont un objectif en tête et pas trop de pression, donc ils vont pouvoir jouer un peu relâché. Je vois quand même. J'hésite entre Rennes qui arrache la victoire ou Strasbourg qui arrache le nul du coup. Mais ouais, très contesté. Avec des buts, peut-être un 2-2, un 2-3 pour Rennes, parce que c'est deux défenses qui sont un peu en complication en ce moment. À voir aussi justement si le milieu de terrain de Strasbourg, comment il s'appelle, le milieu de terrain qui était parti à Monaco, s'il pourra rejouer enfin, parce que depuis le début de la saison, il joue pas, il est mis au placard comme Pjanic. Et là, ça fait 2-3 matchs qu'il est sur le banc, donc on va voir s'il joue, parce qu'ils ont besoin de son profil, je pense, pour solidifier le milieu. Et c'est ça qui pourrait changer la donne contre Rennes, je pense.
Ok, parfait. Steve, un petit pronom?
Ouais, je vois une victoire rennaise. Je vais pas dire facile, mais dans la difficulté, mais au mental, donc une victoire NS3.
Très très bien, très très bien. Merci Steve. Et enfin pour finir, Thibaut, un petit prono.
Ouais, pareil, je vois une victoire rennaise en terre strasbourgeoise avec un petit but de mon chouchou Martin Terrier. Et voilà. 2-1 pour Rennes.
Ok, bon, bah, parfait. Merci messieurs de m'avoir accompagné sur ce podcast, hein, des très belles rencontres. Hein.
Mais avec plaisir.
Je vous souhaite un très bon week-end de Ligue 1. J'espère que voilà, on va pouvoir passer un très bon moment à regarder ces matchs. Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté cet épisode ou les matchs qui vous intéressaient et merci surtout de revenir vers nous. N'hésitez pas à vos commentaires sur les différents matchs. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes, comme d'habitude, X, Fred et Instagram, et surtout à nous suivre sur toutes les plateformes d'écoute, telles que Spotify, Deezer ou encore Apple Music. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à toutes, enfin à tous et à toutes, pardon, un très bon week-end dans notre belle Ligue 1 Uber Eats. Profitons-en, l'année prochaine, le nom changera. Donc un très bon week-end de foot, et je vous dis à la semaine prochaine pour parler une nouvelle fois du meilleur championnat d'Europe, du monde et bien sûr de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.